Chapitre 6 Fantasme. C'était un guilleret jeudi de printemps à Neuilly. Le mois d'avril déployait sur le nord un azur de Riviera, et dans le parc de la maison de convalescence, rempli d'élégants visiteurs, les bourgeons poisseux éclataient en verdure. Rosine Orlac, ayant reconduit jusqu'à la grille son beau-père et le chevalier, revint à petits pas vers le fond du jardin. Un peu désemparée, les visites de l'ancien notaire la gelaient à tout coup. Ce vieillard bilieux, au bec tordu des mouchets, semblait toujours à l'ombre, tant sa personne physique et son être moral portaient le même deuil. Antithèse de Monsieur de Crochant, il était l'Héraclite de ce Démocrite, Jean qui pleure auprès de Jean qui rit. Depuis plus de 2 mois que Stéphane avait quitté la clinique du professeur Serral pour la maison de convalescents de Neuilly, son père était venu le voir 1 semaine sur 2. Flanqué du chevalier, qui plus que jamais faisait le bout en train, mais autant vouloir égayer un groupe de statues funéraires, il s'asseyait aux côtés de son fils, jetait autour de lui des regards de rapace et contemplait Stéphane avec autant de pitié que de mépris. Ce n'était pas sans raison que M. de Crochant, toujours moqueur, mais parfois trivial, l'avait surnommé le père laconique. Sa bouche muette et dure, ignorant le sourire, faisait penser à une porte condamnée. Au bout de quelque temps, il consultait sa montre et partait, n'ayant rien dit que bonjour et adieu. Monsieur de Crochant ne manquait pas de l'accompagner. Il s'éloignait de conserve comme le médecin tant pis au bras de son confrère tant mieux. De telles visites, vu l'état de Stéphane, étaient parfaitement contre-indiquées. Serral lui avait prescrit un régime de distraction. Il était malaisé de compter comme divertissement les exhibitions bimensuelles de son parâtre. À vrai dire, le convalescent ne sortait point de la pluie sombre que de devant, mais sombre pouvait-il l'être davantage? Rosine l'aperçoit de loin, sous le tendelet à raies rouges et bises du fauteuil pliant. Le petit garçon du directeur, accroupi sur un tabouret, lui fait la lecture. Il n'écoute pas. Il regarde dans le vide. L'enfant lui secoue la main et Stéphane flatte doucement la tête blonde. Cela n'empêche pas, l'instant d'après, de retomber dans sa tristesse. Il a été si près de la mort qu'on s'est demandé si sa guérison n'était pas à proprement parler une résurrection. Et parfois, le voyant si grave au début, Rosine fut tentée de croire qu'il avait fait un séjour au pays des ombres et que le souvenir des enfers obsédait sa mélancolie. La raison en est plus simple et moins belle. Depuis que Stéphane est entré en convalescence, il ne pense qu'à ses mains. Avoir échappé à la destruction totale, être là, marcher sur la vieille terre des hommes, avec sa paire de jambes, pouvoir, comme tout le monde, de ses mains saines et sauves, saisir, palper, caresser, de ses 2 yeux indemnes de contempler la nature, il semble que cela ne compte pas pour lui. Il ne dit rien, il n'en parle jamais. Rosine n'oserait aucune allusion. Mais telle la jambe droite restée plus courte que l'autre, tels les bras encore veulent, les mains d'Orlac ne reviennent à la vie que lentement. Et lui, le virtuose, souffre, dirait-on, d'une onglée perpétuelle qui rend malhabile ses doigts gourds. On le sent dévoré d'inquiétude, humilié dans son orgueil le plus noble, accroché à l'espoir farouche de recouvrer son talent. Il cache jalousement son infériorité, dans la croyance qu'elle est temporaire, dans le désir d'en triompher, dans la paresse d'y travailler. Il évite en public les actes où sa maladresse se révélerait. Il est très malheureux, c'est sûr. Rosine est arrivée près de lui. Il la regardait venir comme une transparence à travers laquelle il suivait autre chose. Stephen Orlac est un homme de petite taille. Il a toujours été frêle et nerveux. Ses traits arrondis dénotent la faiblesse du caractère. Il est encore pâle de tout le sang qu'il a versé. Deux ou trois balafres lui zèbrent le front. La cicatrice de l'occiput trace dans ses cheveux bruns une marque livide. Ses béquilles sont posées contre le fauteuil. Oh, une canne lui suivra bientôt. Mais le petit lecteur s'est tu. Stephen, assoupi, ferme les yeux. Rosine en profite pour regarder les pauvres mains. Et comme toujours, elle puise la confiance dans leur examen. Certes, elles ont passé par une cruelle épreuve. Sans couture, les gants d'une vilaine résille, rougeâtre et violâtre. Mais enfin, rien n'y manque. Les brisures se sont ressoudées à merveille. Sous la peau qui s'assouplira, les osselets saillissent, nets et dégagés. La forme de l'ensemble n'a rien de désespérant. À la place de Stéphane, Rosine serait pleine de courage et d'entrain. Mais de Stéphane à Rosine, en matière d'énergie, il y a toujours eu, comme on dit, tout un monde. Et depuis la catastrophe, Stéphane semble avoir perdu toute fermeté d'âme. Aussi bien, puisque Rosine nous laisse pénétrer dans son cœur, il faut connaître que c'est là, pour elle, un sujet de trouble et de perplexité. Non, quel que soit le malheur qui menace l'artiste et quel que soit son affaiblissement, il n'est pas naturel que Stéphane résiste aussi mal à la crainte qui le ronge. Il est trop bizarre dans ses appréhensions, trop épouvanté dans ses rêveries, trop ingénieux dans les façons qu'il a d'endormir tous ces musiciens, chers maîtres et autres qui s'empressent à le voir et le quittent persuadés que virtuose il fut et virtuose il reste. Les mains, cela n'est rien. Mais le cerveau, tout est là. Serral fut impuissant à rétablir ce que la blessure a détruit. Et même, il est bien difficile de croire que l'étrangeté de Stephen ne provient pas d'une étrangeté opératoire. Il y a dans son moi quelque chose de nouveau, d'imprévu, de surprenant, un élément quasi monstrueux, fait de peur, d'égarement et de fanfaronnade, que l'état de ses mains ne justifie nullement. « Il dort ?» murmure une voix d'homme derrière Madame Orlac. Elle se retourne, c'est le professeur Serval. « Ne l'éveillons pas, dit-il. » Le chirurgien et la jeune femme cheminent par les allées du parc. « Justement, fait Rosine, je voulais vous parler, docteur. On dirait que c'est grave. Oui et non. Non, je vous demande de me dire en toute franchise quel genre d'opération cérébrale vous avez fait subir à mon mari. » Elle a le feu aux pommettes et parle par saccade. « Mais très volontiers, petite madame, encore que cérébrale soit un terme impropre. Je vous prierai seulement de me dire, à votre tour, pourquoi vous me posez aujourd'hui cette question à laquelle j'aurais répondu de bon cœur le lendemain de l'opération. Il y a déjà longtemps qu'elle s'est promis d'interroger Serral, mais jusqu'ici la présence même du chirurgien l'a bâillonné. Il exerce sur ses semblables un tel ascendant, sa haute valeur et sa droiture le font rayonner d'une telle auréole qu'on ne sait plus que se taire quand il approche. Il est de ces hommes supérieurs qui déplacent avec eux une aire de sécurité et de soumission. Aujourd'hui, si Madame Orlac s'est sentie capable de parler, ce n'est pas qu'elle soit plus inquiète qu'à l'ordinaire au sujet de Stephen. C'est seulement que Serral ne ménage pas ses visites et qu'à force de se produire, il devient pour elle peu à peu un homme comme les autres. Le prestige du savant s'effrite chaque jour sous l'action de l'habitude. Aujourd'hui, un gros morceau vient de s'en détacher. Serral achève son explication. Il a parlé du trépan et de la scie. Oh, l'opération était fort simple, mais très délicate. Somme toute, un mot vulgaire la résume, nettoyage. La fracture de l'occipital avait déterminé la contusion et la compression du lobe gauche. Des esquilles s'étaient logées en tous sens. Il a fallu pratiquer un vaste oculus, se livrer au lavage le plus minutieux et refermer. Bref, dit Rosine, rien de spécial, aucun procédé à... Et la dernière mode, pas d'emprunt de transfusion. Et tiens, fait Serral, quelle idée! Qu'allez-vous chercher là, petite madame? Rosine rougit davantage et baisse la tête. Le chirurgien s'est arrêté et la considère suprêmement intriguée. Serral, ses yeux clairs sont des miroirs de loyauté. Les statues qu'on lui érigera sur les places publiques n'auront pas la prestance de sa personne. On cherche un socle sous ses pieds, et qui verrait ce socle, il irait ce trionyme, savoir, puissance, bonté. Rosine balbutie d'une voix tremblante. Oh, je vous demande pardon, oui, je sais bien que vous me dites la vérité, mais vous ne me cachez rien, je vous crois. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que c'est une petite fille qui explique son gros chagrin. Elle voudrait ne pas pleurer, la petite fille, mais c'est difficile. Son discours n'est qu'une suite de hoquets parlés, de sanglots articulés, avec des chantonnements bizarres, qui seraient risibles s'ils n'étaient pas navrants. Bien, mon mari n'est plus comme avant. Bien sûr, avant, ce n'était pas un professeur d'énergie, loin de là. Ah, je me doutais bien que ses mains lui causeraient du tourment. Mais ma parole, il ne vit plus que pour redouter de ne plus pouvoir jouer du piano. Et vous diriez que ça, c'est un cataclysme, un malheur, oui, un grand malheur, même si vous voulez, mais enfin, il n'y a pas que le piano dans la vie. Il m'aime, oui, oh oui, mais pas tant que ses mains. Il aurait vendu son pays, il serait condamné à mort pour trahison. Vous ne le verriez pas plus désespéré. Ce n'est plus lui, non, ce n'est plus lui. Elle cesse de se moucher et Serral, apitoyé, lui dit « Avec le temps, chère petite madame, tout cela s'atténuera. Les forces reviendront et elles ramèneront endurance et courage. Rappelez-vous que M. Stephen Orlac a supporté l'hémorragie la plus forte à laquelle une créature terrestre puisse survivre. Je vous donne ma parole d'honneur que le liquide employé par moi pour remplacer le sang ne contenait aucun élément de nature à modifier le rythme vital du patient. Aucun principe animal ? Au sens où vous l'entendez, non, petite madame. Mais permettez-moi de sourire de vos craintes. Je vous vois poursuivi par toutes les histoires qu'on écrit de nos jours en marge de la science. Vous êtes en présence d'un cas très normal d'amoindrissement. Quand le traumatisme aura complètement disparu, quand le cerveau puissamment irrigué fonctionnera comme il faut, quand les mains seront établies. Et qu'est-ce que vous en pensez au juste de ces mains ? Un médecin ne sait jamais dans quelle mesure exacte la nature voudra bien s'employer à parfaire son œuvre. J'ignore si les mains de votre mari lui permettront jamais de poursuivre sa carrière de virtuose. Encore une fois, j'ai fait ce que j'ai pu, et comme eut dit mon ancêtre, je le soignais, Dieu le guérisse. Sur un geste découragé de Rosine, il reprend avec résignation, l'œil attristé d'une ombre. Vous êtes comme votre mari. Vous ne réalisez pas qu'à cette heure, il devait être sous 6 pieds de terre, ou pour le moins manchot, unijambiste et peut-être idiot. Vous m'en voulez de l'imperfection de ma besogne, sans admettre que ma grande collaboratrice, la vie, n'a point terminé la sienne. Qu'importe, il vous est beaucoup pardonné, parce que vous aimez beaucoup. Ne vous montez pas la tête, petite madame, n'exagérez rien. Soyez juste et soyez logique. C'est le propre des convalescents et en général de toutes les débilités d'agir comme agit M. Stéphane Orlac. Ce qu'il épouvante aujourd'hui ne fera plus demain que le contrarier. Je vous donne rendez-vous dans un an. En attendant, j'estimerais salutaire que M. Stéphane Orlac rentre chez lui. J'espérais mieux de son moral, pourquoi le cacher? Une cure supplémentaire s'impose. Le milieu la favorisera. Entouré des objets qu'il aime, replongé pour ainsi dire dans son eau mère, vous le tirerez de là d'ici peu. Je vais l'examiner et lui donner son exéate. Figurez-vous, dit Rosine, qui se raffermit, figurez-vous que j'ai été jusqu'à l'interroger sur notre passé pour m'assurer que c'était toujours lui. Et elle rit, et elle est sur le point de se moquer d'elle-même. Mais Serral prend le ciel à témoin de cette énormité. Oh, littérature, s'écrie-t-il, quelle instruction tu donnes aux nouvelles couches. Eh bien, monsieur Orlac, comment va? Un mouvement évasif, un regard fuyant, chargé d'ennui, sinon de rancune, voilà l'accueil. Docilement, Stéphane fait quelques pas sans béquille. Il prête à l'examen son occiput couturé. Voyons les mains, dit Serral. Gêné par le mutisme de son mari, Rosine parle à sa place. Oh, l'appétit est bon, docteur, mais les nuits sont mauvaises. J'entends souvent gémir, suffoquer. J'accours, il est en nage. Souffrez-vous donc la nuit ? Non, dit Stéphane. Oh, je pense, dit Rosine, que ce sont des cauchemars. Quand je lui demande ce qu'il a, il me répond qu'il ne se rappelle plus. Affaire de temps, déclara Serral. Dans quelques jours, vous regagnerez votre logis, cher monsieur, et ces troubles disparaîtront. Le logis, le salon du logis, le piano du salon. Quelle détresse emplit les yeux de Stéphane, et comme il les abaisse avec effroi vers ses mains. Des cauchemars? La nuit suivante, Rosine fut à même d'étudier la question dans des circonstances particulièrement favorables. Mais les faits l'impressionnèrent si vivement qu'elle ne put se rendormir et garda de ses instants nocturnes un souvenir ineffaçable. Madame Orlac servait d'infirmière à son mari. Leurs deux chambres contiguës communiquaient par une porte qui n'était jamais fermée. La tête des lits touchait de-ci de-là le mur de séparation. Dans le silence de la nuit, on entendait les moindres bruits de part et d'autre. Or, Rosine s'était endormie du lourd sommeil de la jeunesse. Elle en fut tirée brusquement par un soupir douloureux. La veilleuse électrique dispensait sa lumière minima. Au lieu de se lever sur le champ ou de taper à petits coups sur la cloison, comme il suffisait qu'elle le fît pour dissiper les songes morbides de Stéphane, Rosine écouta le dormeur s'agiter et se plaindre. C'était une sinistre audition. Encore impressionné de son entretien avec Serral, préoccupé de la prochaine rentrée rue Guynemer, la jeune femme éprouvait une odieuse sensation de misère et d'écrasement. L'ombre y mêlait du déprimant et de l'insidieux. À demi réveillée, une vapeur de rêve l'enveloppait encore. Et ce fut dans cet état de pesanteur intellectuelle que Rosine Orlac épia dans la nuit. Stephen poussait des clameurs étouffées, puis on n'entendit plus que son souffle haletant, précipité, rauque. Une faible lueur venait de sa chambre. Rosine pensa qu'il avait allumé sa veilleuse. Elle sortit du lit avec précaution et, ses pieds nus effleurant le parquet, elle s'approcha de la porte à pas de loup. Là, elle se raidit pour retenir une exclamation, tout en pensant que cette exclamation aurait peut-être achevé de l'éveiller. Car pouvait-elle croire à la réalité de ce qu'elle voyait? Stephen était agenouillé sur son lit, dans l'attitude de la prostration. Sa veilleuse n'était pas allumée. Cependant, une source lumineuse éclairait la chambre d'une phosphorescence aquatique. C'était une tache pâle, suspendue au milieu de la pièce, juste en face de Stephen, non loin de son visage. Et cette tache, cette sorte de lune imprécise, vaguement ronde, était le siège de mouvement. Des formes confuses s'y déplaçaient. Elles se précisèrent, une image animée naquit de leur groupement. On aurait dit la coupe d'un cerveau laissant voir les idées du penseur. On aurait dit la projection du cerveau de Stephen, son cauchemar extériorisé. Un cauchemar épouvantable. La phosphorescence figure un piano à queue sur une estrade. Un homme est là, vêtu d'un frac de soirée. Et c'est Stephen. Et sa physionomie est affreusement triste. Il salue l'auditoire invisible et s'assied devant le piano qui l'ouvre. Mais le clavier n'est pas composé de touches noires et blanches. Le clavier, maintenant, on n'aperçoit plus que lui. Lui et les mains du pianiste. Tout le reste a disparu. Les mains de Stephen sont posées sur les touches. Mais ces touches, vraiment, on ne sait ce que c'est. La main droite en arrache une, un couteau à virole. Maintenant, on ne voit plus que le couteau dans la main. Tout le reste a disparu. Le manche du couteau est marqué d'un X. La main de Stephen est crispée sur le manche. Maintenant, on ne voit plus que la lame du couteau. Tout le reste a disparu. C'est une lame aiguisée, pointue. Mais voilà qu'elle se couvre d'on ne sait quoi. Elle semble suer goutte à goutte un liquide écarlate. La main disparaît. Le couteau reluit, se raccourcit, devient une équerre d'acier tranchante. Il s'encadre dans un étroit portique. Et dans la lunette de la guillotine, il y a une tête. Maintenant, on ne voit plus que la tête prise dans le carcan de bois. Tout le reste a disparu. C'est la tête grimaçante de Stephen. Un cri lugubre retentit. L'halluciné se tord les bras sur son lit. Stephen, mon chéri! Rosine, avec une douceur passionnée, le couvre de caresses. La fièvre le brûle. Mais l'ombre les entoure. L'appel de Rosine a dû réveiller le dormeur et chasser le sinistre rêve, car le fantasme lumineux s'est évanoui. Les ampoules de la chambre s'éclairent tout sur coup. Puis Rosine revient à Stephen, éponge son front, remonte les draps. « Que se passe-t-il » fait-elle. Il est plongé dans la torpeur. « Mais qu'as-tu, Stephen ? Tu rêvais, n'est-ce pas ? » « Ai-je crié ? » dit-il enfin. « Oui, je pense que je rêvais. »« Mais que rêvais-tu ? » « Je ne me rappelle pas, » prononce-t-il avec difficulté. Cet homme tombe de fatigue, il se rendort comme on s'abat. Rosine, à son chevet, médite assidûment. Les rêves ont beau ne laisser sur la mémoire qu'une trace légère, il est bien surprenant, au sortir d'un tel cauchemar, que Stéphane ne s'en souvienne pas. Il dissimule, c'est certain. Il dissimule, soit par fausse honte, soit pour éviter que Rosine ne se tourmente. Mais d'autre part, ce cauchemar lui-même est tellement extraordinaire. Monsieur de Crochant doit pouvoir fournir là-dessus quelques éclaircissements. Madame Norlac passa le reste de la nuit auprès du convalescent. Les cauchemars ne revinrent pas. Du moins, s'ils revinrent, ce fut dans des conditions naturelles et ils se confinèrent à l'intérieur du sujet. Celui-ci, pourtant, se montra des plus sombres quand le jour fut levé. Et lorsque M. de Crochant se présenta vers 11 heures, selon qu'il en avait pris l'habitude, Stéphane accueillit d'un air absent le Napoléon III de la rue d'Assas. Le chevalier s'annonça comme toujours « Crochant, santé, mais avec un S !» Et il ajouta exceptionnellement « Toujours caustique et gonucéphale !» Rosine négligea d'apprendre que gonucéphale équivaut à tête-genoux et, tirant à l'écart, elle l'entreprit de spirit. Elle lui raconta ce qu'elle avait vu pendant la nuit. « Qu'est-ce que vous dites de cela, chevalier ? Oh, moi, j'en suis encore toute retournée. » Le chevalier, immobilisant une œillade de coin, épilogua de la sorte. « Bon, le cauchemar s'est déroulé selon la règle. Chaîne d'incohérences reliées entre elles par des associations puériles. Chapelet de scènes désordonnées dont la génératrice est le concept piano. C'est un cauchemar type, un cauchemar modèle. » Oui, mais visible. Oh, extériorisation de la pensée, idéoplastie. Il n'y a rien là qui puisse me surprendre. Donc elle expliquerait peut-être d'une autre façon. Cette portion de Stéphane qui s'est matérialisée par projection hors de lui-même pourrait être considérée comme une apparition fragmentaire du corps astral, ce fantôme des vivants. Mais ces explications, nébuleuses comme l'occultisme en personne, ne satisfaisaient nullement Rosine. Elle savait trop que, pour M. de Crochant, plus une solution était surnaturelle, plus elle était vraisemblable. D'ailleurs, un mot l'avait frappé, fantôme. Songeant à Spectrosphélès, elle fit une digression. Vous croyez aux fantômes des vivants ? Demanda-t-elle. Mais oui, croyez-vous aussi aux fantômes des morts ? J'en ai vu un, moi, jadis, par 2 fois. Vous avez vu le fantôme d'un mort ? Ah ah ! Mais voilà qui est intéressant. Ne vois pas qui veut les fantômes. Il est vrai, Rosine, que vous avez des yeux étonnants, si larges, si purs, si troublants. Oh non, ne réjouissez pas. Et dites-moi, vous êtes bien sûr que la vision de cette nuit... C'est une vision de Stephen. Ce ne serait pas par hasard une vision de Rosine. Dans ce dernier cas, 2 hypothèses. Ou vous avez vu le songe de Stephen par privilège, ou Stephen ne songeait pas, et alors ? Voyons, votre mari vous a déclaré n'avoir aucun souvenir de son rêve. Pourquoi suspecter sa franchise ? Rosine hésita, rappela ses propres souvenirs et fut catégorique. « Non, non, affirma-t-elle, je ne rêvais pas, je ne dormais pas. » « Mais dormiez-vous quand vous avez aperçu le fantôme du mort ?» À ces mots qu'elle prit de travers, Rosine se fâcha et se replia sur elle-même, boudeuse et mécontente. Elle ne doutait pas de ses sens. Elle se savait merveilleusement équilibrée, lucide et sereine. Son intelligence était solide comme son corps. Elle ne pouvait confondre le monde extérieur avec des fantasmes issus d'un délire impossible. Et elle le fit entendre vertement au peintre spirit. Celui-ci, pour entrer en grâce, riposta par des calembres d'aine. Mais elle soutint sa cause avec une ténacité rageuse. Et il faut dire que les événements était à la veille de lui donner raison.